Alors que le paysage belge est clivé, isolé par les mesures Covid, les inégalités explosent et le secteur culturel est déclaré non essentiel. Pourtant, cette période est en tournant pour nos sociétés. Il est temps que l'on se réapproprie notre histoire commune, que l'on relance la culture. Bref, c'est le moment de renaître. Depuis toujours, la solidarité fait partie de nos valeurs phares à Esperanza. Chaque année, à peine passé le Porsche, en route vers le village des possibles, les conversations, les échanges et les débats vont dans ce sens. Bon, c'est vrai, le principe semble couler de source. Au village des possibles, nous défendons l'accès de tout le monde à une vie digne. Partout dans le monde, peu importe le genre, la classe sociale, la condition physique. Mais ce n'est pas si évident finalement. Et puis, par quoi est-ce que ça passe en fait? Qu'est-ce qu'on entend par justice sociale? En fait, la justice sociale, c'est une distribution socialement acceptée entre individus ou groupes de ressources rares, valorisées. Alors, elles peuvent être matérielles ou symboliques. Mais si seulement c'était si simple. À l'image de la société, différents courants coexistent sur la manière dont il faut redistribuer ses revenus. Il y a le courant qui défend le capital individuel, les libertés individuelles, et comme l'a rappelé Nabil dans la vidéo « Tout va bien sur la sécurité sociale », c'est aussi ce courant-là qui va faire des économies sur les soins de santé afin que les patrons d'entreprises aient moins à payer, par exemple. Ensuite, l'autre modèle est basé plutôt sur la solidarité collective et la redistribution pour celles ou ceux qui font face à des risques de la vie. Bref, à tout le monde, puisque personne n'est à l'abri d'un accident, d'une situation difficile au travail. La notion de justice sociale est donc assez subjective et n'a pas de définition unique. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est que ça touche tout le monde, d'une manière ou d'une autre. Et en pandémie mondiale, le partage des ressources, c'est un vrai sujet, surtout lorsque l'on voit que les oubliés sont toujours les moins privilégiés. Après une longue période, la justice sociale, ou en tout cas nos représentations idéologiques de ce que doit être la justice sociale, a été mise à rude épreuve. Tout le monde autour de nous en a souffert. Nos partenaires, notre public, nos événements, même toi et moi en fait. Alors dans cet épisode, avec Malaika, ma collègue de Tout va bien, ensemble nous revenons sur ce que la pandémie nous a révélé plus que jamais pour les personnes visibles et invisibles. Avec notamment Nicolas de ADT Carmonde.
Pourquoi on ne doit pas retourner, en tout cas accepter ce retour à la normale? Parce qu'on doit quand même se dire que le système avant était déjà rempli d'inégalités.
Ensuite, ce sera Taslim pour La Voix des Sans-Papiers qui nous racontera de quelle manière ils et elles ont été encore plus invisibilisés durant cette période.
Donc avec le Covid, on s'est trouvé encore plus ignorés, quoi.
Et enfin, ce seront Agathe et Sixtine qui viendront parler de comment l'outil démocratique peut être utile pour défendre la justice sociale.
Et donc en fait, ce fossé qui existe de facto entre gouvernants et gouvernés, à partir du moment où il y a des gouvernants, il y a un fossé avec les gouvernés, mais il est d'autant plus grand que les gouvernés sont pauvres.
Il est absolument nécessaire d'inclure la voix des plus pauvres à toutes les étapes du processus démocratique, y compris dans la création de connaissances, donc qui va nourrir le processus politique, mais aussi dans la prise de décisions politiques.
En tant qu'acteur culturel, à Esperanza, nous pensons que nous faisons partie de la solution. Il est impératif de recréer des espaces de débat, de confronter nos points de vue, de faire front ensemble et de trouver des alternatives viables pour une société plus juste. Alors ensemble, changeons les normes et faisons un détour vers un futur démocratique, social, écologique, antiraciste, féministe et queer.
Alors donc moi c'est Nicolas Descamps et je travaille pour le mouvement ADT Carmonde Belgique qui s'occupe de lutter contre les inégalités sociales directement aux côtés des personnes les plus précarisées. Bah, des expressions comme revenir à son quotidien, revenir à la normale, bah, moi ça me gêne beaucoup parce qu'en fait elles embellissent pas mal en fait la situation dans laquelle on était avant le Covid. C'est un peu se dire que le quotidien qu'on avait avant il était acceptable et qu'on pourrait y retourner bah, finalement sans lutter en l'acceptant totalement. Donc ça pour moi c'est une première raison pourquoi on ne doit pas retourner, en tout cas accepter ce retour à la normale, parce qu'on doit quand même se dire que le système avant était déjà rempli d'inégalités. Et enfin la deuxième raison bah, c'est que cette crise elle n'a pas vraiment créé de nouvelles inégalités. Enfin, si, quelque part, mais surtout, elle en a renforcé. Elle a renforcé des inégalités qui étaient déjà bien présentes dans le système. Et donc, on ne doit pas l'oublier, parce que analyser ces dysfonctionnements, voir ce que ça a mis en avant, bah, c'est mieux connaître forcément ces dysfonctionnements et pouvoir mieux lutter contre et mieux s'insurger contre. De manière très générale. On a l'impression que cette crise, de la manière à notre société avant ça, on a l'impression que cette crise, elle a été gérée vraiment d'un point de vue social, sans prendre en compte le vécu et l'apport des personnes qui vivent dans la précarité. Typiquement, on voit toutes les informations qui ont été transmises pour par rapport aux mesures anti-Covid, etc., etc. Et on se rend compte qu'en fait, on n'a jamais pensé à transmettre correctement ces infos aux personnes les plus pauvres. On a beaucoup insisté sur transmettre ces infos en ligne ou à la télévision, etc., etc. Et en fait, nous, on s'est rendu compte sur le terrain qu'il y avait énormément de personnes qui vivent dans la précarité qui étaient complètement perdues parce que les infos leur étaient pas vraiment adressées. C'est-à-dire que le langage était pas compréhensible pour elles ou pour eux, qu'il y avait des supports auxquels ils n'avaient pas forcément accès, que ce soit forcément un ordinateur, mais aussi pour des gens qui ne savent pas lire ni écrire, il n'y avait rien qui était mis en place. Et enfin, le contenu, parce que là c'est la communication, mais aussi le contenu des mesures en tant que telles n'était pas du tout adapté à la vie des personnes les plus pauvres. Quand on parle de rester chez soi, quand on parle, on a beaucoup blagué dessus d'aller faire du kayak ou quoi, on se rend compte que les mesures elles sont adressées à une certaine catégorie de personnes et que les plus précaires, on se rend compte qu'ils ont été complètement mis de côté. Et forcément, ça a notamment renforcé l'exclusion sociale, ça crée aussi un climat de peur et d'angoisse qui était hyper important. Et pour les personnes qui n'avaient pas de chez soi, par exemple, être à la rue, on a eu l'impression qu'ils étaient complètement laissés de côté. Je parlais en fait que cette crise a renforcé les inégalités. L'enseignement, c'est vraiment un très bon exemple, dans le sens où, à la base, l'enseignement, on est vers quelque chose, dans notre système actuel, vers une mise en avant des élèves qui réussissent le mieux, qui ont le plus facile. Et on a plus de mal à assurer un suivi avec les personnes qui ont le plus de mal à réussir. Et en fait, quand on regarde les mesures qui ont été prises pour lutter contre le Covid par rapport à l'enseignement, en fait, c'est la même chose que ce que je disais avant, c'est qu'on se rend compte qu'on a l'impression que les élèves qui avaient plus de mal, qui étaient en situation plus précaire, juste, ils comptaient moins. Typiquement parce qu'on demande aux élèves, par exemple, de suivre les cours via ordinateur. Et on se rend compte qu'il y a vraiment une méconnaissance des conditions de vie des familles les plus pauvres. Parce que forcément, pour des familles les plus pauvres, c'est pas forcément une réalité d'avoir un ordinateur, loin de là. Et donc, on a assisté à vraiment une explosion du décrochage scolaire, notamment avec les personnes les plus pauvres, dans les familles les plus pauvres. Ce qui a engendré cette crise, finalement, je pense pour une grande partie des organisations du secteur, ça n'a pas du tout été une surprise, parce que c'était annoncé que vu les inégalités préexistantes, on allait avoir vraiment ce renforcement, vu à quel point la société ne prend pas en compte les personnes qui sont dans les situations les plus précaires. Et donc on est vraiment dans ce modèle où finalement, ces personnes, on ne va pas partir d'eux pour essayer de résoudre les problèmes et de soutenir l'ensemble de la société. Et donc, évidemment, quand on regarde la crise, finalement, cette explosion d'inégalité, elle part de là. Et encore une fois, j'insiste sur le fait que ça doit être une vraie sonnette d'alarme pour qu'on se saisisse de ces inégalités qui ne sont pas forcément, pas forcément à l'origine de la faute de la crise, mais qu'on s'en saisisse pour vraiment militer, essayer d'avoir une société qui est là pour tout le monde plutôt que pour quelques-uns.
Moi, je m'appelle Diallo Mamad Taslim. Je suis membre de la Voix des Sans-Papiers Bruxelles. Depuis 2014, on occupe des bâtiments donc abandonnés pour les faire revivre et avoir un quartier général pour pouvoir faire notre lutte politique pour la régularisation de toutes les personnes sans-papiers qui se trouvent ici en Belgique. Bon, avec la Covid, nos risques... Donc on a été toujours victime depuis 2014. Nous, on lutte pour la régularisation de toutes les personnes sans papiers. Non seulement on est sans papiers, donc c'est comme si on est ignoré par le gouvernement belge. Oui. Donc toutes les circonstances, toutes les mesures mises en place pour les citoyens belges durant la pandémie. Donc ils n'ont jamais parlé des sans-papiers, commencé par la première ministre jusqu'à maintenant. Ministre
Crow. Vous avez été ignoré, c'est ça que tu veux dire?
Oui, c'est ça quoi. On a été plus ignoré parce qu'on était déjà ignoré. Donc avec le Covid, on s'est trouvé encore plus ignoré quoi. Donc c'est ça aussi le plus grand problème. Parce qu'avant tout, on avait aussi des problèmes de santé, de logement, de travail. Donc avec la Covid, tout ça s'est arrêté. Je peux dire ça a accentué de plus notre souffrance, quoi. Donc, nous, notre revendication, c'est la régularisation. On veut juste être régularisé. Moi, par exemple, j'ai fait 9 ans ici en Belgique. Donc, étant toujours sans papier, donc, j'aimerais juste qu'on me considère comme un autre humain à part entière, quoi, pour que je puisse contribuer légalement pour le développement de la Belgique, quoi. Parce qu'actuellement, même si on travaille, on fait des boulots, donc tout ça, ça ne rentre pas dans les caisses de l'État. Donc tout ça, c'est une perte aussi de l'État. Ce que je trouve triste, quoi, parce que la plupart des politiques, ils ne parlent pas de l'avantage des sans-papiers si on les régularise, mais donc il ne parle que des peurs, donc des peurs non fondées, alors que les avantages sont fondés, donc mis même par sur écrit par des universités, par même l'organisation qui recrute des travailleurs ici en Belgique comme Acturus. Ils ont fait une étude qui prouve que bon, si on régularisait les sans-papiers, donc ce sera un bon plus pour l'énergie de l'économie belge, surtout pour les personnes qui vont être retraitées, quoi. Okay. Donc aussi, tu travailles durant toute ta vie, donc après tu pars à la retraite, on ne peut même pas te payer ta retraite, donc oui. Tout ça aussi. Donc la Belgique ne parle pas de ça, le gouvernement ne parle pas de cela, mais pourtant il y a beaucoup de choses donc qu'ils cassent, quoi. Donc c'est ça aussi le problème, quoi.
Attends, moi j'ai pas répondu, pas dis-moi attends, pas fais-moi pète, moi si ça m'a, moi j'ai pas répondu, pas dis-moi attends, ça c'est real life, pas ni cinéma, ça fait un moment, moi si c'est là, long time, ma ouais, maman pas qu'a dit y'a rien. Enfin voilà, les houchots, on bat moi en l'air. Baby man show, Wallon, non pas dis moi Wallon. Moi j'apparais pas, pas dis moi Wallon. Baby man show, Wallon, non pas dis moi Wallon. Et si vous parlez, on bat moi en l'air.
je m'appelle Sixtine, je suis doctorante en théorie de la démocratie à l'UC Louvain. Voilà, je fais ma thèse sur des mécanismes de démocratie directe au niveau local. En fait, on parle souvent de crise de la démocratie. Et je vais d'abord commencer par cette entrée-là pour un peu comprendre comment les plus pauvres sont exclus de ces prises de décision politiques. Alors, on voit souvent que ça soit le fossé grandissant entre gouvernants et gouvernés, que ça soit le déclin du taux de participation aux élections, et notamment parmi les plus pauvres, que ça soit l'augmentation des inégalités sociales ou la montée du populisme. Il y a des signes de dysfonctionnement de notre démocratie représentative qui se multiplient et qui montrent qu'elle est incapable de résoudre certains défis. Et alors, au-delà de ces signes, en fait, on peut se demander si, quand la démocratie représentative fonctionne vraiment comme prévu et qu'elle n'est pas donc en crise, est-ce qu'elle est à même de faire participer tout le monde en politique, y compris les plus pauvres? Alors, maintenant, si on remonte historiquement à la création de la démocratie représentative, donc au XVIIIe et XIXe siècle, en fait, elle a jamais visé à la participation des personnes qui ne faisaient pas partie de l'élite économique. Donc le but, le droit de vote, c'était uniquement réservé aux propriétaires, et donc ça excluait tous les autres qui étaient dépourvus de propriété de la sphère de démocratique. Le suffrage universel a ensuite été acquis après des longues et des dures luttes du mouvement ouvrier. Il a été étendu par le mouvement féministe, et il a permis donc à tout le monde, en tout cas tout le monde de nationalité belge, de pouvoir voter pour des représentants et représentantes. Mais si on regarde la sociologie au final dans les parlements aujourd'hui, on voit que la plupart des personnes qui sont élues sont des personnes qui ne sont pas du tout issues des milieux populaires, qui ont souvent beaucoup de moyens et ou qui sont diplômées. Et donc même si elles peuvent voter, les personnes les plus pauvres ne sont pas du tout représentées au parlement. Et ça, c'est dû au fait que pour avoir accès à un poste politique, il faut en fait avoir les moyens financiers, il faut avoir les moyens culturels, il faut avoir les moyens sociaux de pouvoir se présenter. Et aussi, en fait, il y a un principe fondamental à la base des élections, qui est un principe foncièrement élitiste, voire même aristocratique, dans le sens où ça vise à élire les personnes qui se distinguent du reste de la population, qui sont considérées comme les meilleures. Maintenant, les meilleures pourquoi ? C'est clairement pas les meilleures pour connaître le quotidien de la population la plus pauvre. Et donc, les élections, contrairement à d'autres mécanismes comme le tirage au sort, en fait, c'est pas du tout un mécanisme de sélection de personnes qui permet un accès égalitaire à la politique. Et donc ça mène à une classe gouvernante qui est complètement déconnectée de la réalité du quotidien des plus pauvres, de ceux d'en bas, comme l'avait revendiqué le mouvement des Gilets jaunes. Et donc en fait, ce fossé qui existe de facto entre gouvernants et gouvernés, à partir du moment où il y a des gouvernants, il y a un fossé avec les gouvernés, mais il est d'autant plus grand que les gouvernés sont pauvres. Et donc, en plus du fait que les personnes au Parlement sont déconnectées de la réalité et du quotidien des plus pauvres, et donc elles sont incapables forcément d'adapter des mesures qui répondent vraiment à leurs problèmes, et surtout le fait que les principales personnes qu'elles vont écouter sont pas du tout les plus pauvres, mais sont plutôt le patronat et les élites économiques. La richesse existe grâce au travail des plus pauvres. Et donc ces élites économiques, elles proviennent des mêmes milieux sociaux, elles ont les mêmes intérêts, et les intérêts que la classe gouvernante, donc que les dirigeants vont défendre, sont pas du tout ceux des personnes les plus pauvres, mais plutôt les intérêts de ceux à qui elles ressemblent, quand ce sont pas parfois les mêmes personnes issues des mêmes milieux, qu'elles écoutent et dont elles vont défendre les privilèges. Donc c'est cette classe capitaliste qui détient la propriété privée des instruments pour pouvoir produire, rendre des services, voyager, se loger, soigner, etc. Et donc, pour faire adopter des politiques en faveur des plus pauvres, il faut que les plus pauvres soient soient les auteurs de ces lois, mais que les plus pauvres aient le pouvoir politique, en quelque sorte, permettrait aussi d'aller plus loin. Il permettrait de radicalement changer la manière dont fonctionne la sphère économique et d'éradiquer en fait la pauvreté et les inégalités sociales. Donc, le but, c'est pas simplement de faire participer les plus pauvres en politique, c'est aussi tout simplement qu'il y ait plus de pauvres.
Moi, je m'appelle Agathe, je suis docteure en sciences politiques et sociales, aussi à l'UCL. Les problèmes auxquels nous faisons face aujourd'hui, en particulier les problèmes qui nous ont menés à ces crises sociales et écologiques auxquelles nous faisons face, sont bien trop complexes pour être résolus par des experts ou des scientifiques seuls. Pour garantir une participation plus effective à la démocratie des plus pauvres, il faut du coup mettre en place des dispositifs adaptés aux personnes qui sont les plus éloignées du monde politique. Dans la recherche, par exemple, ça passe par une co-construction patiente avec des personnes en situation de pauvreté, des personnes marginalisées, des personnes exclues à chaque étape du processus de la recherche. Donc, il ne s'agit pas seulement d'obtenir des témoignages que les scientifiques vont ensuite analyser, mais il faut un respect profond pour chaque participant, être vigilant à aller au rythme des personnes qui ont le plus de mal à participer, et puis mettre en place les conditions pratiques pour leur permettre de prendre part réellement. Donc il faut avant tout reconnaître chacun et chacune comme étant détenteur de savoir et de réflexivité, c'est-à-dire de capacité à prendre du recul sur sa situation et d'éventuellement proposer des solutions pour arriver à un monde plus juste. Il est absolument nécessaire d'inclure la voix des plus pauvres à toutes les étapes du processus démocratique, y compris dans la création de connaissances, donc qui va nourrir le processus politique, mais aussi dans la prise de décisions politiques. En fait, les solutions qui émergeront des processus qui sont réellement démocratiques et non pas réservés aux plus riches ou aux plus instruits vont être plus proches de la réalité des personnes les plus en difficulté, et donc il y a plus de chances qu'elles fonctionneront pour chacune et chacun d'entre elles. Comme exemple, nous pouvons citer par exemple le croisement des savoirs, donc, qui est une méthode développée par le mouvement ATD Quart-Monde dans les années 90, qui vise à croiser les savoirs entre des personnes en situation de pauvreté, des professionnels qui travaillent avec elles et eux, et des scientifiques. Et donc l'idée, c'est de vraiment croiser les savoirs, d'inclure ces trois types de savoirs pour créer des meilleures propositions politiques et des meilleures solutions. Donc, il y a d'autres exemples. Il y a par exemple le service de lutte contre la pauvreté, qui est un service interfédéral qui prend en compte la voix des plus pauvres à chaque étape de la création d'un rapport bisannuel, donc qui est écrit tous les deux ans. Et ça, c'est un processus vraiment intéressant qui permet une participation des associations où les personnes en situation de pauvreté prennent la parole et vraiment une co-construction de ces rapports qui sont à chaque fois choisis avec des thématiques différentes. Donc il existe des solutions, il existe vraiment des dispositifs, soit dans la recherche, soit dans le monde politique, qui permettent cette participation réelle des personnes les plus pauvres, mais encore faudrait-il que les politiques prennent en compte les recommandations qui émergent de ce genre de processus. Donc, je pense qu'il faut vraiment aller au-delà des processus de simple consultation pour aller vers une réelle co-construction des politiques publiques avec les personnes qui vivent la pauvreté. Et donc, il y a plusieurs manières de le faire. On pourrait exiger, par exemple, des évaluations avant la mise en œuvre de politiques publiques, donc des évaluations qui essaieraient d'estimer l'impact de ces politiques publiques sur les personnes en situation de pauvreté, pour s'assurer qu'il n'y aurait pas d'effet pervers de ces politiques sur les plus pauvres. On pourrait aussi imaginer des quotas dans nos parlements pour être sûr d'inclure une plus grande diversité de voix, y compris des personnes qui vivent la misère. Il y a toute une série d'innovations ou de solutions possibles pour améliorer notre démocratie, la rendre plus inclusive. Mais il faut avant tout une volonté politique pour élargir notre démocratie à celles et ceux qui ont été exclus jusqu'à présent.
Après ces rencontres, il nous est paru évident qu'on ne veut pas de retour à la normale. Le Covid n'a pas créé de nouveaux problèmes, mais a renforcé ceux qui existaient déjà. Les règles et le système décisionnel sont mis en place et pensés par et pour les élites. Et à Esperanza, nous ne défendons pas ce modèle. Nous défendons une justice sociale basée sur une redistribution collective. Car nous pensons que tout le monde a droit à une vie digne. Et cela, ça passe par la régularisation des sans-papiers et par une démocratie beaucoup plus inclusive, où les personnes précarisées ne sont pas juste consultées, mais elles contribuent directement à la construction de nouveaux systèmes. Alors, on vous propose de retrouver les campagnes en cours qui visent notamment à améliorer les conditions des personnes précarisées dans le descriptif de cet épisode. Et ensemble, faisons un détour vers un futur plus solidaire. Ce podcast a été réalisé par Esperanza Music Festival en collaboration avec Tout va bien, dans le cadre de sa campagne en éducation permanente, avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Tout d'abord, merci à Malaika, merci à Radio Panique pour son accueil, merci à Nicolas pour ATD Quart-Monde et à Taslim pour la voix des sans-papiers. Merci à Sixtine et Agathe pour leurs interventions. Merci également à Laura pour sa sélection musicale de grande qualité. Vous pouvez retrouver les détails de celle-ci dans la retranscription de cet épisode. Enfin, merci également au groupe de travail podcast pour sa relecture et ses bons conseils. Et enfin, merci aux différentes personnes et collectifs du Village des Possibles qui sont venus alimenter les prémices de ce projet et que l'on retrouvera dans les prochains épisodes.